Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations. Pascal. Patience Ngalula Banangue.
D'abord les titres de ce journal. Après l'étape des Kananga au Kasaï Central, le chef de l'État poursuit sa tournée interprovinciale. Félix-Antoine Tshisekedi est attendu ce jeudi à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï Oriental. Les préparatifs pour son accueil avancent bien selon les maires de la ville de Mbujimayi que vous allez écouter dans ce journal. La 11e région militaire des FRDC appelle les usagers de la route nationale numéro 1 dans son tronçon traversant la province du Kwango à vaquer librement à leurs occupations. L'armée rassure que ce tronçon est bien sécurisé après les actes de violence commis lundi par le milicien Mobondo sur ce tronçon. Vous entendrez le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée dans cette région. Notre invité est John Kuba, tatoueur dans la ville-province de Kinshasa. Il nous parle de la pratique du tatouage chez les jeunes. John Kuba, que vous allez suivre dans quelques instants, indique que les tatouages existent depuis l'époque ancestrale et continuent encore aujourd'hui. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. Le président de la République arrive ce jeudi à Mbujimayi. Les préparatifs par rapport à cette visite vont bon train. Les travaux de réhabilitation des routes sur certains endroits de la ville ont été accélérés. Le maire de la ville a quant à lui demandé aux propriétaires des maisons résidentielles qui longent les artères récemment asphaltées d'échauffer les murs des clôtures. Esther Ndalafina pour le reportage.
Les préparatifs par rapport à l'arrivée du chef de l'État se poursuivent encore à Mbujimayi. Les actions se multiplient sur terrain. Jean-Marie Lutumba, maire de la ville de Mbujimayi, demande aux propriétaires des parcelles qui longent les artères récemment asphaltées d'échauffer les murs des clôtures.
J'ai passé un message pour demander à tous les habitants de la ville de Mbujimayi, dont les parcelles sont érigées devant les grandes avenues qui sont déjà asphaltées, de rendre d'ailleurs les murs de leurs parcelles propres. Acheter des chaussures. Vous n'avez pas la possibilité d'acheter la peinture, que les murs qui tournent la face au devant de la route puissent être propres. D'ici là, nous allons fêter. Nous devons recevoir beaucoup de visiteurs sur la ville.
Toujours par rapport aux préparatifs, les travaux de réhabilitation et modernisation de l'avenue Cathédrale et de la place Bonzola ont même été accélérés. Témoignage.
Sur la place Bonzola ici, le monument là était déjà en délabrement. Même les ronds-points de là, on l'a aussi réaménagé. Parce qu'il y a déjà l'arrivée des chefs de l'État, que les sociétés qui travaillent dans ces domaines ont eu un peu accéléré leurs travaux, surtout les chantiers-là.
Signalons que plusieurs délégations atterrissent sur la ville de Mbujimayi pour accueillir le président de la République. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Sur place à Mbujimayi, la population exprime ses attentes par rapport à l'arrivée du chef de l'État. Écoutons quelques réactions au micro d'Esther Ndalafina.
Nos attentes sont nombreuses. On a constaté que la jeunesse du Kasaï oriental est au chômage. Le président qui a été élu sur base d'un engagement de créer 6,4 millions d'emplois qu'il puisse en fait s'amender. Mais il y a aussi un problème. Il nous a longtemps promis la relance de l'AMIBA, mais jusqu'ici, on ne voit pas clair. Il faudrait que le président puisse également voir la question de l'AMIBA. Mais il y a aussi les problèmes de la famine dans la région. La population a faim. Les biens de première nécessité coûtent extrêmement cher. Donc il faudrait que le président puisse également s'engager à résoudre en fait cette problématique. Et nous voulons que le président puisse parachever tous les projets qu'il a lancés dans le cadre du programme accéléré de lutte contre la pauvreté. Il y a l'école qui est en face de l'université officielle qui n'est toujours pas achevée. Il y a l'école primaire dont on parle, où il a fait son école primaire, Kalenda Mudishi, qui n'est toujours pas achevée, alors qu'il a débloqué des millions de dollars pour en fait ces projets. Donc nous l'attendons sur pas mal de choses.
Nous attendons qu'il nous arrange d'abord la route de Kalambambouji. Parce que si on arrange la route de Kalambambouji, la vie serait facile ici en Mbujimayi. Et la deuxième des choses, depuis qu'il nous a promis pour la relance de la MIBA, jusque-là, nous ne voyons rien.
Ce que nous voulons aussi, c'est le social, quelle est l'agriculture.
Qu'il crée l'emploi pour nous, les jeunes de Mbujimayi.
Pendant ce temps, le chef de l'État a visité ce mercredi la route Kananga-Kalambambouji jusqu'au lieu où l'entreprise Sinohydro construit la base vie au Kasaï central. Cet endroit est le cadre où les Chinois vont habiter et stocker leur matériel pour ces travaux. François Kadima a également été sur place.
Après avoir annoncé lors de son meeting à Kananga qu'il ne finira pas son deuxième mandat sans donner au centre kassaïen la route Kananga-Kalamambouji, Félix Tshisekedi a voulu s'imprégner des travaux qui s'effectuent sur cette voie d'intérêt économique pour la région. Canton de la descente du président de la République, cet habitant du coin demande juste une seule chose, qu'en 2025, cette route soit asphaltée, c'est cela notre souhait. Le 12 juin de l'année en cours à l'Assemblée nationale, les députés nationaux élus du Kasaï central avaient plaidé pour la reprise de travaux sur Kananga-Kalamambouji. Élu dans le territoire de Kazumba, le député national Meshack Mandefou salue le passage du chef de l'État qui permettra de booster les travaux sur cette route. Il s'engage à faire les suivis pour que ces travaux finissent réellement comme le souhaite le chef de l'État.
Même si le président parlait aujourd'hui, le reste, nous devons rester vigilants. J'ai visité la base vie, j'ai visité là où on est tenté d'installer un cancer.
Déjà, le ministre de ZTPR, Alexis Guissaro, a expliqué que l'année prochaine, cette voie, qui sera d'abord faite en terre battue, sera ouverte pour les usagers. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Festivité de Noël, les enfants accusés de sorcellerie encadrés au foyer Ek Abana dans la commune de Kadutu à Bukavu fête avec joie et convivialité. Jamais ces enfants se sont sentis si épanouis en partageant les repas et la prière en communauté. Dans leur famille, ils sont souvent discriminés, isolés et privés de la chaleur humaine que le foyer Ek Abana leur offre avec générosité. Jean Kassami a rencontré ses enfants en train de se préparer à fêter Noël. Suivez son reportage.
Le foyer Ek Abana, c'est un lieu où les enfants accusés de sorcellerie retrouvent les sourires. Noël est une occasion à ne pas rater pour rétablir le moral de ces enfants traumatisés, renchérit la promotrice du foyer, Sœur Natalina.
À Noël, on veut que les enfants partagent avec les enfants plus pauvres. Et alors, on a invité des enfants de la périphérie de Bouriba, plus ou moins 70 enfants, avec leur encadreur, pour fêter Noël ensemble.
Ces enfants saisissent leur présence aux côtés de la sœur pour se régaler pendant la fête de Noël.
Ma vie est heureuse parce que nous prions ici. On nous aide à tous les besoins, nous mangeons comme il faut, nous étudions convenablement, grâce à Dieu.
L'une des encadreurs plante les décors de la cérémonie de Noël au foyer Ek Abana.
Ici, il y a vraiment Noël, puisque Noël pour l'enfant, c'est la vie et la nourriture. On a prévu des bonbons, des pains, des galettes, d'arachides, de jus, la viande. En tout cas, chaque enfant sera dans son bain.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la ville de Matadi où un gros arbre de Noël est érigé au rond-point Musée Laurent-Désiré Kabila au quartier Ville Haute dans la commune de Matadi. Depuis mardi jusqu'à ce mercredi de Noël, ces sapins, fruits du partenariat entre la mairie de Matadi et une banque de la place, ces sapins lumineux ne cessent de captiver les passants. Les points avec Nana Plurich Mambo.
Ce géant sapin lumineux est installé au rond-point Musée Laurent-Désiré Kabila à la place communément appelée 24 novembre. Ce mercredi 25 décembre, les enfants accompagnés de leurs parents qui proviennent des cultes de la nativité dans différentes églises s'arrêtent à cet endroit pour poser à côté de cet arbre de Noël. Ils en sont contents et louent l'initiative de la Robanque qui a installé cet arbre de Noël en partenariat avec la mairie de Matadi.
Nous sommes vraiment contents, on est là avec des enfants en train de fêter. C'est Noël quoi. On est ici au rond-point 24 novembre, on est en train de fêter, prendre les photos. Nous remercions la Robanque pour ces beaux sapins qu'il a mis à notre disposition.
Ils ont tous un seul souhait, les renforcements de la sécurité de la population et ses biens pendant cette période festive.
Les autorités chargées de sécuriser la population doivent prendre des mesures au préalable. Hein. Pour que la population se sente quand même à l'aise pendant ces moments de fête. Pendant que nous sommes en festivité, les malfaiteurs cherchent aussi comment fêter. Malgré les fêtes, mais nous décrions des cas de vol dans nos maisons, dans nos quartiers.
Signalons qu'en dehors de ces sapins, d'autres sites stratégiques de Matadi sont aussi ornés pour ces festivités. Il s'agit notamment du pont Maréchal. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
La route nationale numéro 1 dans son tronçon traversant la province du Kwango est bel et bien sécurisée par l'armée et est opérationnelle. Les usagers peuvent vaquer librement à leurs occupations. Cette assurance est donnée par les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, de la 11e région militaire du Grand Bandundu. Cela après les actes de violence commis lundi par les miliciens Mobondo au niveau du village Pont Kwango, ayant paralysé la circulation sur cette voie. Les porte-parole de l'opération Ngemba de cette région militaire affirme que ces miliciens Mobondo ont été chassés par l'armée et trois d'entre eux ont été tués. Le capitaine Anthony Mwalushai l'a dit au micro de Irène Mbomaluzolo.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont chassé lundi 23 décembre 2024 un groupe des insurgés Mobondo qui ont fait éruption sur la nationale numéro 1, tronçon entre Pont Kwango et localité de Kabuba. L'armée congolaise est arrivée sur le lieu après que ces insurgés aient incendié un minibus marque Yas en provenance de la ville de Kinshasa. Un affrontement s'en est suivi entre le militaire congolais et les Mobondo qui étaient armés de fusils de chasse, d'une arme de guerre de type AK-47, de lance et machette. Les forces armées ont réussi à chasser ces Mobondo tout en neutralisant trois insurgés et récupérer un colis de cri-cri. Du côté armée républicaine, des soldats ont été légèrement blessés et évacués directement dans une structure sanitaire. L'armée rassure la population de la province du Congo en général et particulièrement les usagers de la route nationale numéro 1 que la route est bel et bien sécurisée par les FARDC et qu'ils peuvent vaquer librement à leurs occupations.
Au sud Kivu, cet homme armé retranché dans une maison sur l'avenue Labotte dans la commune d'Ibanda à Bukavu ont été appréhendés par les services de sécurité ce mardi 24 décembre 2024. Parmi eux, deux Burundais ex-combattants FNL qui opèrent régulièrement dans la plaine de la Ruzizi à Uvira. Le ministre provincial de l'Intérieur, cité par la presse du gouvernorat de province, mentionne que ces bandits étaient en possession d'une liste comprenant les noms des personnalités qui devaient être visitées la même nuit de ce mardi. La filature a duré 4 jours, selon toujours la source du gouvernorat de province. Les bandits détenaient des armes de type AK-47, des chargeurs, des grenades, une matraque électrique et une quantité de drogues spécialement pour intoxiquer les cerveaux. Ils ont avoué leur appartenance au groupe des bandits armés qui opèrent en collégialité dans les provinces du Katanga, Nord Kivu et dans les villes d'Uvira et Fizi. Ils ont aussi reconnu avoir cambrioler les coopératives d'épargne et de crédit de Kalundu à Uvira et Kamanyola à Walungu. La campagne agricole 2024-2025 est bien partie dans la province de la Tchopo. Plusieurs centaines de tonnes de semences et d'outils aratoires ont été remis mardi aux inspecteurs territoriaux de l'agriculture par le gouverneur des provinces. Ces semences sont constituées de riz, maïs et arachides. On retrouve également des niébés et des soja, ainsi que 942 000 mètres linéaires de boutures saines de manioc. Cette dotation du gouvernement central par les billets du ministère de l'Agriculture et ses sécurité alimentaire est destinée aux associations et coopératives agricoles. Plus de précisions avec Jacques Moukonkolé.
L'inspecteur provincial de l'agriculture révèle que par cette dotation, les autorités nationales tiennent à diversifier l'économie du pays. Pour Augustin Milambo, ces cultures vont avoir un impact certain sur l'économie nationale.
Les chefs de l'État veulent quand même diversifier l'économie. Sa vision, c'est celle de la revanche du sol sur les sous-sols. L'agriculture peut vraiment booster l'économie de notre pays. Donc, c'est pour donner quand même un grand revenu et aussi assurer la sécurité alimentaire des populations.
Les inspecteurs de cette territoire de la province de la Tchopo ainsi que ceux de la ville de Kisangani ont réceptionné symboliquement ces semences des mains de l'autorité provinciale. Ils en sont satisfaits comme en témoignent quelques-uns.
J'ai 1875 hectares avec ça qui va faire un impact auprès de tout non-ménage agricole. On va se sentir à tous les niveaux.
Par rapport aux résultats, nous nous attendons à un bon résultat là.
D'autres trouvent que l'acheminement de ces semences dans leur milieu est une difficulté majeure pour eux, comme l'explique celui de Yaouma.
Le déploiement des matériels, ça va poser un problème. S'il y a les moyens de déploiement, l'argent, on va amener chez moi à peu près une affaire de 300-310 km à Yaouma. Comment je dois amener la quantité?
Signalons que les bénéficiaires, à savoir les associations et coopératives agricoles, sont déjà identifiés, précise le chef de division provinciale de l'agriculture, Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme appelle les gouvernements à prendre en charge les conseillers communaux qu'elles considèrent abandonnés à leur triste sort, alors qu'ils sont des élus comme les autres. Au cours de sa conférence de presse animée ce mardi, la Voix des Sans-Voix prend position face aux enjeux sociopolitiques de l'heure et leurs conséquences sur la situation des droits de l'homme en RDC. Elle s'insurge notamment contre les débats autour de la révision ou changement de la Constitution, la déclaration officielle sur l'application de la peine des morts contre certains jeunes délinquants appelés Kuluna et plaide en faveur des revendications sociales des conseillers communaux.
Actualité internationale.
Au Mozambique, le gouvernement a confirmé dans la soirée du 25 décembre une évasion massive d'une prison de haute sécurité près de Maputo. Plus de 1500 détenus se sont évadés dans l'après-midi dans des conditions qui restent à déterminer. Une évasion qui intervient alors que le pays connaît de nouvelles violences depuis le 23 décembre et la confirmation par le Conseil constitutionnel de l'élection de Daniel Chapo à la tête du pays avec 65% des voix.
L'invité.
Notre invité est John Kuba, tatoueur dans la ville province de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler de la pratique du tatouage chez les jeunes. Selon lui, les tatouages existent depuis l'époque ancestrale et continuent encore aujourd'hui. En dépit de certaines difficultés rencontrées, il reçoit des personnes de tous âges, hommes, femmes et jeunes qui viennent se faire tatouer. John Kuba explique dans cet entretien qu'il a eu au téléphone avec André Kitenge.
John Kuba, bonjour.
Bonjour, monsieur André Kitenge.
Vous êtes tatoueur. Dites-nous comment arrivez-vous à tatouer vos clients?
Moi, je suis bien tatoueur. John le tatoueur, mon pseudo sur tous mes réseaux. Je suis tatoueur depuis plus de 10 ans. Parce qu'après, à la partie non professionnelle, à la partie professionnelle. Bah, la partie que j'appelle non professionnelle, c'est quand je m'essayais encore au quartier avec mes amis sans... le matériel de pointe et tout. Bah après la partie professionnelle, c'est quand j'ai décidé vraiment plus à mettre du sérieux dans ça, quoi. Ça veut dire travailler selon les normes avec tout ce qu'il faut et etc. Merci.
Êtes-vous sollicité par vos clients, vous en tant que tatoueur?
Oui, en effet, j'ai pas mal de clients parce que vous savez cette culture revient. Je dis revient parce que c'est pas comme si c'est un truc inventé de nos jours. Oui, peut-être la forme, mais c'est un truc qui existe depuis l'époque ancestrale. Hein. De nos jours, les gens consomment de plus en plus le tatouage. Pour ce qui est des clients, c'est simple. Hein. Les clients me contactent, on prend rendez-vous, on book un jour, et voilà, on le fait. Souvent, ils passent directement, on essaie de développer le tatouage en question. Souvent, on échange déjà à distance, ils me disent ce qu'ils veulent et tout. On essaie de travailler déjà à distance par rapport aux idées. Et une fois en place, on fait ce qu'il y a à faire. Hein.
Avez-vous un établissement propre à vous pour mener à bien vos activités?
Oui, plus maintenant, j'avais un établissement, j'avais mon studio sur Mont des Arts numéro 1 à la Gombe. Mais faute d'espace, ça commençait à devenir un peu trop petit pour moi. Là, je suis en train d'emménager dans un nouvel endroit que je vous communiquerai dans pas très longtemps, le nouvel adresse.
Recevez-vous des jeunes qui viennent se faire tatouer? Si oui, de quel type de tatouage sollicitent-ils et quel genre de message véhicule ces tatouages?
Oui, je reçois beaucoup de jeunes qui me sollicitent pour le tatouage. Les critères sont assez variés. Hein. Y a d'autres qui veulent juste des tatouages décoratifs, qui n'ont pas forcément un message quelconque, juste pour le style, se faire beau. Et voilà, il y a d'autres qui veulent marquer des souvenirs, s'identifier, reprendre une certaine liberté aussi. Parce que le tatouage, voilà, ça affirme, ça redonne confiance en soi. Il y a d'autres qui marquent de l'amour dessus. Parce que, je peux rencontrer un couple qui vient marquer leur union en tatouage.
Il y a d'autres qui se rappellent de leur défunt sur le tatouage. Voilà, il y a d'autres tatouages aussi qui cachent des cicatrices. Vous voyez un peu? Donc, le tatouage, c'est pas qu'une histoire de mode. Ça redonne confiance en soi aux gens qui ont perdu, qui se sentent gênés par rapport à une cicatrice ou à un défaut quelconque. Grâce au tatouage, ils retrouvent leur confiance.
Il vous arrive à tatouer vos clients sur les parties intimes lorsqu'il s'agit pour la plupart des filles ou des femmes?
Oui, il m'arrive de tatouer des femmes ou des filles, comme vous dites, à des zones assez discrètes, oui. Mais bon, après, ça reste strictement professionnel. On le fait comme il faut, avec les normes, etc.
Avez-vous du matériel approprié pour ce genre d'activité?
Oui, bien sûr. Il faut s'investir, il faut faire le boulot propre avec les normes qu'il faut. Donc oui, j'ai mon matériel de haute pointe. J'ai tout ce qu'il faut, en fait. J'ai tout ce qu'il faut, tout est stérilisé, tout est utilisé à usage unique. Les encres sont des encres appropriées, des grands fabricants, donc voilà.
John Kouba, merci.
Merci beaucoup pour l'interview.
Et c'est par ici que s'achève cette session de nouvelles sur Radio Kapi, mise en onde par Alain Goy, supervision et coordination, Richard Junior Kamungambo à Chimankinda. Patience Ngalula Mbombo était à la présentation, merci à vous de l'avoir suivi.